Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, si vous êtes francilien, vous avez peut-être déjà eu cette conversation à l'approche des Jeux Olympiques qui arrivent. Autour de vous, un ami, une collègue, un membre de votre famille qui adore raconter qu'il va toucher le jackpot en juillet en ayant mis son appartement en location sur Airbnb à des prix astronomiques. Car le logement, tout particulièrement en Île-de-France, est une question centrale de l'événement. Et quand certains cherchent à en tirer parti, d'autres subissent le revers de la médaille et sont expulsés. Alors, dans cet épisode, nous vous proposons de démêler le vrai du faux. Où les amateurs internationaux de sport seront-ils logés cet été? Les Parisiens pourront-ils vraiment mettre tous leur appartement en location 10 fois plus cher que d'habitude pendant les JO? Et est-ce légal? Pour répondre à ces questions, je reçois Jessica Gourdon et Véronique Chocron. Elles sont journalistes en charge des rubriques Tourisme et Logement au Monde. Bonjour Jessica, bonjour Véronique.
Bonjour.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors, on a déjà parlé avec vous dans des épisodes de l'Heure du Monde de sujets relatifs à l'immobilier et au tourisme. Et on vous a invité aujourd'hui car les JO mobilisent depuis plusieurs mois les acteurs de ces deux secteurs que vous couvrez. Alors, avant d'en venir au fameux Airbnb, je vous propose de commencer par le tourisme dit traditionnel. Paris 2024 s'attend à voir déferler près de 16 millions de personnes dans la capitale pendant les JO. Et on imagine que les professionnels du secteur, hôteliers en tête, se sont frottés les mains devant tous ces potentiels clients. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, à quelques mois du début de l'événement? Est-ce que les hôtels sont complets, Jessica?
Alors, pas du tout. Beaucoup d'hôtels, en effet, pensent qu'ils vont toucher le jackpot cet été en accueillant des visiteurs pour les Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Ce qui s'est passé, en fait, Jean-Guillaume, c'est que les prix ont énormément augmenté par rapport à ce qu'ils étaient les années précédentes. En fait, en 2023, quand les premiers spectateurs ont commencé à avoir des billets pour les épreuves, les hôtels se sont dit « bon, bah là, il faut qu'on augmente les prix parce qu'on a des clients captifs ». Ils vont venir et donc ils ont fait des augmentations très très importantes, fois 3, fois 4 par rapport au tarif qui était observé. Une chambre d'hôtel en moyenne dans la métropole du Grand Paris, c'est les chiffres de l'Office de Tourisme, au mois d'août 2023, c'était 161 euros en moyenne. Et ce qu'on constatait l'année dernière, c'était que pour la période des Jeux Olympiques, c'était 759 euros. En moyenne pour une chambre. Ce qui fait qu'on avait des choses complètement délirantes, des hôtels Ibis qui d'habitude tournent autour de 100 euros et qui étaient proposés à 500, 600, 700 euros la nuit. Donc oui, c'est une augmentation énorme.
Cette flambée des prix ne concerne pas que la capitale. À Marseille, nous avons trouvé des prix multipliés par 4, par 7 à Lyon ou par 5 à Lille. Toutes les villes accueillant des épreuves olympiques sont concernées.
Et ils ont le droit d'augmenter leur tarif à ce point? Il n'y a pas de réglementation pour limiter ces hausses?
Non, pas du tout. Les hôteliers peuvent fixer les prix qu'ils le souhaitent et ils le revendiquent. Et d'ailleurs, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, qui est un peu le syndicat représentant les patrons de ce secteur, a fait remarquer que les prix donc, sont dynamiques et augmentent toujours lorsqu'il y a des grandes manifestations qui attirent beaucoup de monde, beaucoup de public international, comme par exemple les Fashion Week ou le salon de l'automobile, le salon du Bourget. Donc, c'est quelque chose auquel ils sont habitués, mais évidemment, pas dans ces proportions.
Et cette flambée des prix, elle inquiète ?
Elle a inquiété notamment l'Office de tourisme qui a lancé un message d'alerte à la rentrée dernière aux patrons d'hôtels parce que c'est vrai que si on a des touristes qui viennent dans un hôtel 2-3 étoiles et qui payent 600 euros la nuit, il y a un problème quand même de rapport qualité-prix, il y a un problème de satisfaction des clients à la fin qui auront payé très cher pour une prestation qui sera complètement déconnectée du prix qu'ils ont payé. Ça risque finalement d'avoir un effet d'éviction et que les hôtels ne remplissent pas à ces tarifs. Donc c'est ça le problème, ça peut avoir aussi vraiment un effet d'éviction et d'image. Le risque aussi, c'est que les touristes, si les prix restent si élevés, que les touristes aillent se loger ailleurs, plus loin, en banlieue parisienne, ou voire même dans d'autres régions, et que cela sollicite encore plus le réseau de transport.
Et face à ça, les autorités sont donc impuissantes. Les hôteliers fixent les tarifs qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'elles ont tout de même essayé de faire pour essayer de limiter cette hausse ?
Alors, faute d'avoir la main sur les prix, l'État a joué la carte des contrôles renforcés dans les hôtels. Ils ont annoncé donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, c'est-à-dire la DGCCRF, allait inspecter en 2024 10 000 hôtels ou restaurants dans le cadre des Jeux. C'est deux fois plus qu'habituellement. Et donc, ils vont lancer ces inspections pour contrôler la conformité de leurs équipements et de leurs installations. Évidemment, pas des prix, mais c'est une manière de dire aux hôtels « on vous a à l'œil et ne faites pas n'importe quoi ».
Et alors finalement, Jessica, les prix ont fini par baisser. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, voilà. Alors après une grosse flambée des prix, en gros entre août et novembre, les prix ont commencé à baisser à partir de la fin d'année dernière pour plusieurs raisons. Déjà parce que finalement, les clients n'étaient pas si nombreux au prix affiché et aussi parce que les hôteliers ont commencé à relibérer de nouvelles chambres et donc avoir plus de chambres disponibles, donc à baisser les prix. Parce que notamment les fédérations qui avaient fait énormément de pré-réservations de chambres dans des hôtels ont finalement libéré certaines de ces réservations au fil des sélections des athlètes. Et donc, leurs besoins se sont affinés. Et ils en avaient réservé beaucoup. Ils en ont confirmé de moins en moins, ce qui a permis aux hôtels de mettre sur le marché davantage de chambres et de baisser leurs prix. Donc, résultat, alors qu'on avait des prix de 700 euros en moyenne en septembre, au mois de février, on était plutôt à 500 euros, selon les chiffres de l'Office de tourisme. Donc, on est à peu près à x3 par rapport à une période habituelle. Et il est fort à parier que ce prix continue de baisser lentement jusqu'à l'événement. Et beaucoup pensent qu'on va finalement arriver à x2, ce qui correspond à peu près aux tarifs observés pendant les grands événements internationaux dont on parlait tout à l'heure.
Ok Jessica, donc ces derniers mois, des chambres sont revenues sur le marché, l'offre a un peu monté, donc les prix ont baissé. Pour autant, ils restent chers. Donc comment est-ce que font les gens pour se loger ?
Il faut savoir d'abord que sur les 16 millions de touristes qui sont attendus à Paris cet été, 90% sont français. Donc c'est quand même beaucoup de gens qui ont des possibilités de trouver des logements dans la famille, chez des amis. Donc il y a beaucoup ce marché de la débrouille qui va fonctionner. Il y a aussi des gens qui peuvent faire des allers-retours chez eux, même s'ils habitent un peu loin. Plutôt que de payer une chambre d'hôtel à 500 euros la nuit, il faut parfois mieux faire un aller-retour en train, ça coûte moins cher. Pour le reste, beaucoup de spectateurs et de touristes se sont tournés vers les plateformes de location comme Airbnb, qui, même si les tarifs sont élevés, permettent de faire des économies parce qu'on peut manger chez soi, on peut loger plusieurs personnes dans un même logement. Et donc, la plateforme Airbnb connaît un véritable essor pour cette période des Jeux Olympiques.
Alors, on en vient donc au cas de Airbnb, qui est devenu un acteur incontournable du secteur de la location à courte durée dans le monde. On se doutait hein, donc qu'il le serait d'autant plus pour une compétition aussi majeure que les JO. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui du côté de cette plateforme ?
Alors, il y a des tas de Parisiens qui n'avaient jamais mis leur appartement sur Airbnb et qui se sont dit, en fait, là, c'est l'occasion ou jamais de sous-louer mon appartement pour cette période pour se faire un complément de revenu. Les chiffres sont absolument frappants. On a rencontré avec Véronique, le représentant d'Airbnb, il y a quelques jours. Il nous racontait que l'été dernier, il y avait à peu près 50 000 logements dans Paris et ses alentours l'été dernier. Et là, pour l'été prochain, pour les Jeux Olympiques, ils s'attendent à en avoir 130 000. Donc, on a énormément de nouvelles personnes qui se sont inscrites sur Airbnb et qui ont mis des appartements en location pour cette période.
Mais là aussi, Jessica, comme pour les hôtels, les tarifs proposés par les particuliers sont très élevés. Tout le monde essaye d'en profiter.
Eh bien évidemment, parce que voilà, c'est une période où il y aura beaucoup, beaucoup de monde à Paris, beaucoup de demandes. Donc, les propriétaires d'appartements tentent le coup en affichant des prix très, très élevés. Mais il y a une différence entre les prix affichés et les prix des réservations réelles. Par exemple, d'après les données qu'on a récupérées, on voit que les prix affichés, ce sont en moyenne 542 euros la nuit. Mais le tarif effectivement réservé, c'est plutôt autour de 360 euros. Donc, il y a une petite différence. Par ailleurs, il y a des grosses différences selon le type d'appartement, les quartiers, ça ne sera pas le jackpot pour tout le monde.
Et les propriétaires trouvent des locataires à ces prix-là ou est-ce qu'ils ont du mal à remplir, comme les hôteliers ?
Eh bien non, il y en a qui ont réussi à trouver des locataires. J'ai discuté par exemple avec Julien, qui est un cadre qui travaille dans le secteur de la banque, qui avait acheté un appartement avec sa compagne du côté du métro Arts et Métiers et qui a décidé vraiment de faire de la location saisonnière une activité parallèle à côté de son métier. Et il a aménagé son appartement spécifiquement pour pouvoir recevoir des gens avec des grands espaces de placard, des portes qui ferment à clé pour permettre de mettre ses affaires personnelles. Il a même mis la climatisation parce qu'il sait que ça plaît à certains touristes. Et là, par exemple, au mois de septembre, il racontait qu'il avait loué son appartement pour toute la période des Jeux Olympiques pour 1 200 € la nuit, sachant que c'est un appartement avec 2 chambres et 2 salles de bain. Ça va lui faire au total à peu près 20 000 € de revenus. Je précise que, évidemment, ce sont des revenus qui sont imposés, mais c'est vrai que c'est un complément de revenus absolument énorme qu'il a pu dégager.
Donc certains arrivent quand même à très bien tirer leur épingle du jeu. Comment expliquer cette réussite alors qu'il y a beaucoup de concurrence ?
Oui, alors il y a énormément d'annonces, mais ceux qui réussissent à louer, ce sont souvent ceux qui ont des appartements situés dans des quartiers touristiques prisés, qui ont des photos professionnelles, qui ont aussi mis leur annonce très tôt parce que les prix étaient beaucoup plus élevés fin 2023 qu'aujourd'hui, parce qu'à mesure que l'offre augmente, que de plus en plus d'appartements arrivent sur le marché, cela pousse les prix à la baisse. Et puis peut-être que ceux qui réussissent davantage à louer, ce sont aussi des propriétaires qui ont une certaine expérience, qui savent un peu comment marche la machine Airbnb, qui ont déjà des évaluations, qui savent comment mettre en valeur leur appartement sur la plateforme pour attirer des touristes qui sont de plus en plus en quête d'une véritable prestation hôtelière quand ils cherchent à louer un appartement sur Airbnb.
Mais tout le monde ne va pas réussir à louer son appartement, il y en a beaucoup quand même sur la plateforme, Véronique.
Exactement. Donc là, on voit que les Jeux approchent et on constate des signaux faibles qui montrent que les JO ne vont pas être la manne espérée pour tous. Donc j'ai discuté avec une conciergerie qui s'appelle WeHost et qui dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appartements et que tout le monde ne va pas louer, c'est certain. Et par ailleurs, on voit sur des groupes Facebook comme celui des mères de famille du 6e arrondissement, des messages inquiets. Donc je vous en lis un. Donc là, c'est un père de famille qui dit « À vous qui avez mis votre appartement en location sur Airbnb pour les JO, avez-vous trouvé preneur ?» Pour moi, le prix est raisonnable pour la période et c'est la première fois que je ne vois aucune demande de réservation alors que les JO approchent. Voilà, donc on sent bien qu'il aurait fallu peut-être s'y prendre plus tôt.
Alors Véronique, je te propose qu'à ce stade du podcast, on dézoome un peu pour continuer de relativiser cet Eldorado Airbnb auquel beaucoup de Parisiens s'attendaient pendant les JO. Pour ça, on va faire le point aussi sur les règles en matière de location meublée courte durée. Est-ce que tu peux nous les rappeler déjà, ces règles ?
Alors, il y a plusieurs règles. La première, c'est que les particuliers peuvent louer leur résidence principale en entier sans aucune difficulté, mais pour un maximum de 120 nuits par an, pas plus. Par ailleurs, de nombreuses villes, pas toutes, mais de nombreuses villes, demandent à ce que les propriétaires s'enregistrent sur la plateforme disponible en mairie. Et donc, on obtient un numéro d'enregistrement. Et ce numéro d'enregistrement permet à la fois de vérifier que les propriétaires s'acquittent bien de la taxe de séjour et qu'ils ne dépassent pas cette fameuse limite légale de 120 jours de location par an.
D'accord, donc ça c'est un faux problème pour les personnes dont on parlait, puisque les JO s'étalant sur une période de 2 semaines, la plupart des personnes qui loueront leur résidence principale pour la première fois seront a priori dans ces clous de ces 120 jours. Mais est-ce que tout le monde peut mettre son appartement en location sur ces plateformes de location à courte durée, ou est-ce qu'il y a certaines restrictions ?
Non, il y a des restrictions. Donc pour le faire, il faut être propriétaire de son logement. Si on est locataire, on peut le faire avec l'autorisation de son propriétaire. Mais honnêtement, je pense qu'il y a très peu de propriétaires qui peuvent donner leur accord. Je pense que c'est pas dans l'intérêt du propriétaire d'accepter la sous-location. Autre point, il est absolument interdit de mettre en sous-location un appartement quand on est locataire du parc social, donc d'un HLM, au risque de perdre son logement. Donc des campagnes d'information ont commencé, il y a des affiches dans les immeubles. Alors c'est très important parce que ceux qui prendraient le risque de faire ça s'exposent à la fois donc à voir leur bail résilié et aussi à une amende de 9 000 €.
Et alors Véronique, comment est-ce que les autorités font pour vérifier la conformité de tous ces logements présents sur la plateforme ? Ça ne peut pas se voir sur l'annonce qu'elle ne respecte pas la loi a priori.
Non, ça ne se voit pas sur l'annonce, mais la ville de Paris est hyper active sur le sujet. Ils ont étoffé leurs équipes d'inspecteurs et ils organisent des visites au hasard dans les immeubles. Enfin, ce n'est pas complètement au hasard, c'est-à-dire que il y a pas mal de voisins qui font des signalements sur la plateforme de la ville de Paris. Par ailleurs, ils arrivent aussi à avoir des incohérences entre annonces et les retours qu'ils ont des plateformes qui leur font des petits comptes rendus. Et puis donc, ils font ces visites. Alors, la première chose, c'est essayer de récupérer les codes des immeubles. Une fois qu'ils les ont, ils se baladent dans les couloirs, ils font du porte-à-porte, ils repèrent les boîtes à clés. Et puis donc moi j'ai accompagné ces inspecteurs, on croise des fois des touristes avec des valises à roulettes, donc voilà, on arrive à voir que là il y a du Airbnb qui n'est pas déclaré, ou en tout cas qui peut être déclaré en résidence principale et pas en résidence secondaire, enfin donc ça c'est vraiment un service de contrôle qui a été beaucoup musclé là à l'approche des JO.
Ok, donc on a vu plusieurs cas, Véronique. On a vu le cas des locataires qui ne peuvent donc pas sous-louer sans l'accord de leur propriétaire. On a vu le cas de propriétaires de résidence principale. J'aimerais qu'on évoque maintenant le cas de propriétaires de résidence secondaire, ceux qui possèdent par exemple un studio à Paris. Quelles sont les règles qui s'appliquent à eux pour la location de ce studio dans le cadre des JO?
Alors, à Paris, il faut évidemment un numéro d'enregistrement, comme pour les résidences principales. Par ailleurs, il faut une autorisation de la mairie à pouvoir louer sa résidence secondaire. Et pour ça, on obtient cette autorisation que si on fait de la compensation.
C'est-à-dire que
on va priver la ville d'un logement d'habitation classique. Donc, il faut contrebalancer en créant du logement. Donc, si on met une résidence secondaire à louer sur Airbnb, il faut qu'on transforme un local qui n'était pas un local d'habitation, donc bureau, commerce, etc., et qu'on le transforme en logement d'habitation qui sera loué sur un bail classique.
Donc pour louer un studio en résidence secondaire sur Airbnb, il faut transformer un local en habitation, c'est impossible, donc personne ne le fait.
Voilà, personne ne le fait, sauf les gros investisseurs, dont c'est le business. Il y a des agences qui sont spécialisées, qui vont acheter ce qu'on appelle des commercialités. Donc pour eux, c'est facile. Mais en fait, beaucoup ne tiennent pas compte du règlement et louent des résidences secondaires, et même plusieurs pour les multipropriétaires, sans tenir compte de la loi et s'exposent donc à des amendes.
Et on a une estimation du nombre de propriétaires hors la loi ?
Oui, alors la mairie de Paris estime à ce jour que sur les 70 000 petites annonces de location saisonnière, 25 000 seraient frauduleuses. Mais les choses ne devraient pas rester en l'état, puisque plusieurs députés ont porté une proposition de loi qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale et qui devrait être votée fin mai au Sénat et qui va permettre de sanctionner davantage et de mettre davantage de règles.
Quoi comme règles dans les grandes lignes ?
Il y a énormément de règles, mais deux règles intéressantes. D'abord, la PPL va aligner la fiscalité des locations de courte durée de type Airbnb sur les locations de longue durée, c'est-à-dire les meublés bail d'un an ou les locations classiques bail de trois ans, en fixant donc un même taux d'abattement fiscal de 30%, alors qu'aujourd'hui, les meublés touristiques sont vraiment fortement encouragés par une fiscalité très très intéressante. Par ailleurs, des amendements mettent en place des amendes pour sanctionner les faux numéros d'enregistrement et les loueurs qui ne procèdent pas à l'enregistrement préalable quand il est obligatoire.
Et ce texte qui réglemente encore plus les locations à courte durée, ça peut être dangereux pour le business de Airbnb ?
Bah, en tout cas, oui, ça peut le réduire, Airbnb et toutes les plateformes. Et d'ailleurs, ils font un lobbying important pour essayer de limiter la portée de ce texte, notamment sur le volet fiscal, sur la niche fiscale qui compte beaucoup à leurs yeux.
Véronique, pour ma dernière question, tu as consacré un article récemment aux propriétaires qui donnent congé à leurs locataires avant les Jeux dans l'espoir de louer leur logement à prix très fort pendant la compétition. Et ça se fait donc au détriment de ces locataires qui sont contraints de se reloger en très peu de temps. Est-ce légal ? Est-ce que les propriétaires peuvent résilier leur bail pour se faire de l'argent pendant les Jeux ?
Non, alors bien sûr, ce n'est pas du tout légal. C'est très encadré. La loi de 1989 dit que le propriétaire ne peut donner congé à un locataire qu'à la date anniversaire du bail de 3 ans ou d'un an, quand c'est un bien qui est loué en meublé. Et il doit prévenir au moins 6 mois à l'avance, 3 mois pour un meublé. Par ailleurs, le congé doit être remis en main propre ou par un huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais On constate qu'il y a beaucoup de ruptures illégales de bail. Le phénomène existe, on a du mal à mesurer son ampleur. Mais un chiffre intéressant de l'Agence départementale d'information sur le logement indique que les congés qui sont formellement invalides, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles là qu'on vient de donner, sont passés de 19% en 2022 à 28% un an plus tard, c'est-à-dire depuis septembre 2023, depuis qu'on met des appartements sur les plateformes d'Airbnb pour les JO.
Et alors, ce qui est intéressant à rajouter, Véronique, c'est que même si la date anniversaire du bail arrive prochainement, mettons en juin, et même si on prévient le locataire 3 mois à l'avance, ça ne suffit pas pour mettre son locataire dehors, pour louer son appartement à Airbnb pendant les JO.
Exactement. Il faut qu'il y ait un motif valable. Alors, je vais vous les citer. On ne peut donner congé que pour vendre son bien, ou pour le reprendre pour s'y loger soi-même, ou pour y loger un proche. Ou alors, pour un motif dit légitime et sérieux, comme des travaux importants à faire dans l'appartement, ou une faute grave du locataire. Mais comme je te le disais, Jean-Guillaume, beaucoup de propriétaires passent outre toutes ces règles. Et face à ce phénomène, des élus plutôt de gauche, des élus communistes, des élus socialistes, ont déposé des propositions de loi pour encadrer davantage cette possibilité d'expulsion locative. Par exemple, Yann Brossat, sénateur de Paris, a demandé une trêve olympique pour les expulsions locatives. Et par ailleurs, Yann Brossat a invité les locataires qui suspectent un congé potentiellement frauduleux à le signaler sur son site internet de sénateur, avec l'idée de quantifier le phénomène.
Merci Véronique, merci Jessica.
Merci Jean-Guillaume.
Merci à toi.
Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Thomas Zeng. Et si vous voulez suivre tous nos articles sur l'actualité autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous pouvez profiter dès maintenant d'une offre spéciale pour vous abonner gratuitement et sans engagement pendant un mois au Monde. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr ou de cliquer sur le lien en description de cet épisode. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité, retrouvé tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.